Alléluia, Éternel. Gloire à ton saint nom, notre Dieu, notre bon Père, notre Sauveur, notre grand prêtre. Seigneur, je m'en remets à toi. Dis ce que tu veux dire, change ce que tu veux, Seigneur. C'est ta parole, c'est ton message, c'est ton peuple. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci que tu nous as donné ta parole. Pas seulement le Logos, mais le Rhéma. Jésus s'est manifesté en tant que parole vivante. Merci, Seigneur. Où serions-nous? Oh, Jésus, reçois la gloire et l'honneur, Seigneur. Amen. Dans Apocalypse 19:7, ça dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont arrivées, sont venues, et son épouse s'est préparée. » Dieu m'a donné cette parole-là il y a un petit bout de temps. Quand il me l'a donnée, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux dire? Dieu veut que nous nous attendions. C'est qui a parlé d'attente? Qu'on devait s'attendre à quelque chose. Que nous nous attendions à faire partie de l'épouse de Christ. On a été créés pour ça. On a été créés par un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il a tout fait, il a tout mis en place en préparation de nous. Il a créé les cieux, la terre, les mers, l'air, tout, parce qu'il voulait préparer une place pour son peuple. Puis à travers tout le monde, il s'est choisi des gens pour être à part du monde, pour leur montrer aux autres qu'est-ce qui arrivait à du monde qui suivait leur Dieu, qui aimait leur Dieu, qui croyait en leur Dieu, qui obéissait à leur Dieu. Dieu savait qu'il y aurait une chute, mais il y avait déjà un plan. Il y avait déjà un plan. L'ennemi, il l'a pas « I fooled you ». Dieu est encore sur son trône, puis il rit encore de l'ennemi. L'ennemi pense qu'il a le gros bout du bâton. Qu'est-ce qu'une épouse? Selon toi, Seigneur, qu'est-ce qu'une épouse? Qu'est-ce qu'un époux? Comment l'épouse doit-elle se préparer? Comment l'époux doit-il se préparer? Parce que l'époux aussi, il se prépare. Qu'est-ce qu'une épouse? Dans Genèse 2, 18, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Remarquez que Dieu dit ça avant qu'il envoie tous les animaux à Adam pour qu'il leur donne un nom. Je me suis dit, pourquoi qu'il a fait ça de même? Est-ce que c'est possible que Dieu voulait que Adam voit que toutes les autres créatures avaient un partenaire, mais pas lui? Qu'il réalise sa solitude, qu'il y goûte, avant de répondre à son besoin. après ça, Dieu lui dit, Dieu se dit à eux-mêmes, « Je lui ferai une aide, une vis-à-vis semblable à lui. » Chaque animal avait un vis-à-vis qui lui ressemblait. Le mâle, la femelle. Qu'est-ce que l'époux? Qu'est-ce qu'un époux? Jésus a dit, Jésus s'est fait serviteur de tous. Le Dieu créateur est venu goûter à la chair pour servir sa création. Puis Jésus a dit, Jésus a dit, dans le royaume, il y en a un plus grand que moi. Celui qui veut être le plus grand dans le royaume doit être le serviteur de tous. Jésus ne se disait pas le plus grand, il disait qu'il y en avait un plus grand que lui. Il parlait du Père. Le Père aussi nous sert. J'ai eu, à un moment donné, une pensée par rapport à ça, que la parole a dit qu'il va essuyer toute larme de nos yeux. Je dis, si on est au paradis, pourquoi on pleurerait? On a un corps glorifié, on a tout. Tout ce qu'on espérait, on l'a. Puis là, je voyais le Père accueillir chaque enfant dans son royaume, se pencher et leur laver les pieds. Quand j'ai eu la pensée, là, j'ai vu, j'ai tout perdu. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. J'ai dit, oh my, tu me laves les pieds. Moi, je ne voulais même pas que mon mari me lave les pieds la première fois qu'il me l'a demandé. Ben, voyons donc. Je connaissais pas la Bible dans le temps. Là. On n'était pas mariés, on était frères et sœurs. Le Père va nous accueillir en nous lavant les pieds. Puis là, il va faire, pas besoin de pleurer. Il n'y en aura plus de larmes. Alléluia. Si Jésus s'est fait serviteur de tous, le serviteur par excellence, on peut en déduire que Dieu désire que l'épouse ait aussi un cœur de serviteur. Et que le mandat de l'Église serait d'être un fort, servant à guider les gens vers la lumière, leur donner le goût de goûter à la lumière parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose en elle qu'eux autres n'ont pas. Tracer le chemin, être leur guide vers la lumière. Jésus a dit dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Puis il a dit, juste un peu avant ça, vous êtes le sel de la terre. À quoi ça sert le sel? Ça donne le goût, ça donne du goût, ça préserve, ça retient l'eau. Si on prend un grain de sel marin là, sur notre langue, avant de boire de l'eau, le sel va faire en sorte que l'eau va être absorbée par les cellules. Ça purifie. On a le mandat de donner le goût de manger le pain du ciel, la vraie nourriture qui donne la vraie vie. Et à boire le vin nouveau, Jésus a apporté une nouvelle alliance, puis ses enseignements, c'était ça le vin nouveau. C'était des enseignements qui étaient extrêmes, qui étaient radicales. L'Ancien Testament disait « œil pour œil, dent pour dent ». Jésus disait « aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Ça a dû renverser bien du monde, ça. Bien, en tout cas, surtout les pharisiens, mais d'autres mondes aussi. Jésus rencontrait les besoins des gens. Il les nourrissait avant de guérir, avant de leur parler du salut. Parce qu'il savait que s'il rencontrait le besoin du corps, ça ouvrirait les portes du cœur. Fait que si on veut servir les gens, on a juste à demander à Dieu, « Seigneur, montre-moi son besoin. Montre-moi qu'est-ce qu'il y a derrière ces paroles-là qui semblent être un mur de bronze. Donne-moi la grâce de répondre à ce besoin-là. » Dans Jean 2, 5, 6, il y a une exhortation à être son vis-à-vis. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que tous sommes en lui, que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, Jésus, a marché. C'est drôle parce que ça m'a frappé. Le mot « doit », D-O-I-T, en anglais, c'est « do it ». On doit le faire. Jésus dit dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et il vous sera donné. » Et aussi, ce n'est pas vous, l'épouse, qui m'avez choisi, mais c'est moi, l'époux. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Si on va en son nom, si on fait les œuvres que lui a préparées pour nous d'avance, on va porter du fruit. Puis ce fruit-là va demeurer. Parce que ce que Dieu dit, il le fait, et ce qu'il fait demeure. Comment l'époux et l'épouse doivent se préparer. L'époux doit obtenir ou aller se chercher de la main-d'œuvre pour l'aider à bâtir l'ajout à la maison de son père ou une maison rattachée à celle de son père. Il doit aller chercher tout ce qu'il a besoin pour la construire, tout ce qu'il a besoin pour la meubler et la décorer. Puis j'imagine que si nous autres, on a des goûts un petit peu fancy, lui, ses goûts doivent être assez extravagants. Seul le père de l'époux détermine quand la maison est prête, quand elle est prête à accueillir l'épouse. Et quand l'épouse est prête à être accueillie. Là, c'est le moment où le père dit, Vas-y, mon gars, va la chercher. » Et dans la nuit, l'époux part avec ses amis à la recherche de sa... pas à la recherche, mais pour aller chercher son épouse. Puis quand ils sont proches de la maison familiale de l'épouse, ses compagnons se mettent à crier « On est là! On est là! » Puis l'époux sonne la trompette, le chauffard. Là, comment l'épouse s'est préparée pour ça? Les filles qui se sont mariées savent qu'est-ce que c'est que de se préparer pour un mariage. Il faut avoir la robe, le voile, les souliers. Il faut se souvenir de comment on a rencontré notre bien-aimé. Qu'est-ce qui nous a attirés à lui? Puis, on met tout notre temps, notre effort, notre énergie à se préparer pour ce jour-là. Ça peut prendre des mois. Il y en a qui ont moins que ça, mais il y en a que ça prend bien du temps, puis il y en a que ça coûte bien cher. Si on va dans un mariage italien, c'est... Mais le mariage de Jésus-Christ avec son épouse, il n'y aura pas de limite de dépenses. Une fois que toutes ces choses, elle les a trouvées, dans le mariage galiléen, l'épouse couchait avec sa robe de mariée pour être prête pour le jour où il venait la chercher. Ses dames d'honneur étaient avec elle. Vous savez, quand il disait les cinq vierges folles et les cinq vierges sages, ils ont toutes dormi. Dieu ne nous demande pas de rester réveillés 24 heures sur 24 pour être prête pour quand il va venir nous chercher. On dort. On peut même somnoler spirituellement. Mais quand la trompette sonne, elle doit avoir sa lampe à côté d'elle, allumée, le feu brûlant et une réserve d'huile. L'huile, ça représente le Saint-Esprit. La lampe, c'est notre cœur. Le feu, c'est le Saint-Esprit qui habite dans notre cœur. Puis, ça me fait comprendre que les vierges sages, quand ils ont dit aux vierges folles, on ne peut pas vous vendre de notre huile, on n'achète pas une relation avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui se développe à long terme, pas instantanément, rapidement. Pas subitement. J'ai eu la pensée que Josué était un type du Saint-Esprit. Parce que Josué demeurait dans le Saint-Lieu, dans le très Saint-Lieu. Il avait la charge de la flamme. C'était-tu dans le Saint-Lieu, le menorah? Oui, pas le très Saint-Lieu, dans le Saint-Lieu. Ouais. Il avait la charge de s'occuper que la flamme s'éteigne jamais, que l'huile était toujours pleine, à niveau, et que la mèche était taillée comme il faut pour pas qu'il y ait une fumée noire pour salir le temple. La lampe, le très saint lieu, c'est notre cœur. Le feu dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit. Et notre relation avec lui, c'est ça qui fait que ça garde notre cœur en feu. La flamme toujours allumée, l'huile. L'huile aussi, ça représente le Saint-Esprit. C'est lui qui entretient notre cœur si on va vers lui, si on s'engage dans une relation avec lui. Parce que s'il y a quelqu'un qui connaît Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il sait qu'est-ce qu'on a besoin pour être prête. Dans Jean 2, non, je l'ai dit ça, excusez-moi. Ah oui, OK. On va regarder un peu à quoi Jésus ressemblait, comment il agissait. Dans Luc 2, 40, « Or, le petit enfant grandissait, maturait, et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Excusez-moi, j'ai oublié mes lunettes. Oui, mais ça commence à fatiguer. Merci de votre patience. Ah. Dans Luc 2, 46-47, dès son jeune âge, il se démarquait, il se distingue. Parce qu'il est dit que ses parents le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Il avait 12 ans. Les écoutant et les questionnant. Un enfant qui pose des questions, c'est un signe d'intelligence. Ça démontre une soif de connaître, de vouloir remplir un vide. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Suivons-nous son exemple? Grandissons-nous? Maturons-nous? Est-ce qu'on se fortifie en mangeant le pain de vie? Est-ce qu'on écoute Dieu à travers sa parole? Posons-nous des questions à Dieu. Moi, j'en pose. Pourquoi? C'est ça que Dieu m'a dit. Tu es un enfant, Daniel. Regarde, qu'est-ce que tu fais? Tu me poses des questions. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi si? Les enfants n'arrêtent jamais de poser des questions. Ils ont soif. Sommes-nous curieux par rapport aux choses divines? Les parents, pour qu'un enfant grandisse, lui donnent de la bonne nourriture, lui font faire des activités, des exercices, l'occupent, lui font connaître d'autres enfants, une vie sociale, l'instruisent premièrement à la maison, selon la parole, et à l'école, peut-être l'école maison. S'assure qu'il dort bien et assez et qu'il ait des périodes de calme et de paix, de repos. Spirituellement, en faisant-nous autant pour que notre être spirituel grandisse, mature, et qu'on acquiert la sagesse, afin que la grâce de Dieu soit sur nous. Dieu dit, « Ma grâce te suffit. » Ma grâce te suffit. C'est quoi la grâce de Dieu? Ça, c'est une de mes questions à Dieu. C'est quoi ta grâce? la nouvelle alliance, c'est l'alliance de grâce. La grâce, c'est Jésus. Il est tout pour nous. Dans Luc 6, 40, Jésus dit « L'élève n'est pas plus grand que le maître. » Dans 1 Timothée 4, 8, « Exerce-toi à la piété. » Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie future. 1 Corinthiens 9, 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Hein, » Il peut y en avoir une cinquantaine qui courent. « Mais un seul reçoit le prix. » Si on regarde dans l'Apocalypse, les lettres aux églises, il y a toujours un prix, une récompense. La couronne de vie, le pain, de s'asseoir sur son trône avec lui. Courons pour obtenir le prix. Jacques 1, 22 à 25, « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement. » En vous abusant, en vous trompant vous-même, en vous séduisant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. 1 Jean 1, 7 dit, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Le sang de Jésus. Merci, François-André. Une vis-à-vis emboîte le pas dans la même direction que son partenaire. Saisit sa vision des choses et veut élever son époux. Jésus dit, « Si vous m'élevez, j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. » Un même cœur, une pensée, un seul esprit. Amen? Amen. Une aide, une vis-à-vis et quelqu'un qui veut à tout prix le succès, la réussite de son époux, de son vis-à-vis, son partenaire, etc., son patron. C'est quelqu'un qui se place sous la mission de celui qu'elle aide. Alors, nous pouvons lire dans la parole ce que Jésus dit à ses disciples. C'est peut-être une description de tâche, une description de ce à quoi son Église doit ressembler, avoir comme but à atteindre. Là, je n'ai pas marqué la référence, mais c'est les béatitudes. Les béatitudes. En anglais, c'est beatitudes. B-E, attitudes. Avoir les attitudes. Heureux les pauvres en esprit. Ils reconnaissent qui ont besoin d'un sauveur, qui ont besoin d'un guide, qui ont besoin de quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Heureux ceux qui pleurent, qui sont sensibles aux situations et aux gens qui les entourent. Heureux ceux qui sont doux, humbles de cœur. Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, qui cherchent de tout cœur la justice de Dieu, pas leur propre justice. Heureux les miséricordieux, empathiques envers les autres, qui vont voir le besoin avant que la personne ait à demander de l'aide. Heureux ceux qui procurent la paix, qui travaillent à garder la paix. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Ils se tiennent pour la justice. Heureux serez-vous si on vous insulte, si on vous persécute, si on répand du mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Ça revient au premier verset. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que la noce de l'agneau est venue et son épouse s'est préparée. Réjouissons-nous parce que Jésus a tout fait pour nous. Dans le fond, on n'a rien à faire. Toutes les traces sont là. On a juste à mettre le pied dedans. Go ahead. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. C'est une progression vers le mal. C'est quelqu'un qui marche. Oups! Il ne marche pas dans la bonne direction, mais il s'arrête. Puis là, il y a quelqu'un qui... Il s'assoit, puis il commence à faire pareil, à se moquer d'un et de l'autre. Il ne peut pas être heureux. Une aide doit aussi se reposer. Si Dieu, après 6 jours de création, a consacré le 7e jour au repos, qui sommes-nous pour penser qu'on n'en a pas besoin? Notre corps nous le dit assez vite quand on ne se repose pas. C'est quoi le repos de Dieu? Dieu n'a pas dormi. Le psaume 121 nous dit « Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. » Merci Seigneur. Alors, qu'a-t-il fait? Est-ce que ça se peut? Ben, j'ai fait un acrostiche là. R-E-P-O-S. Est-ce que ça se peut qu'après avoir tout créé, Dieu a regardé sa création avec satisfaction? Il a examiné, est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Non, c'est bon. Il a posé les yeux sur sa création. Il l'a observé avec satisfaction et plaisir. Il a scruté les détails infinis de tout ce que sa main a fait. Nous autres aussi, on doit se reposer de nos œuvres. Puis examiner, est-ce que ce que j'ai fait, je l'ai fait avec Dieu? Ou si je l'ai fait pour Dieu, puis c'était pas vraiment de Dieu. Si oui, si ce que j'ai fait est de Dieu, ben je me réjouis, puis j'ai une satisfaction aussi. Mais sinon, ben j'ai juste à me repentir, à revenir à lui, puis il va m'en donner des œuvres préparées d'avance. Matthieu 10, 16. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, rusés comme des serpents, et purs, doux comme des colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront au tribunal et vous fouetteront dans leur synagogue. À cause de moi, vous serez conduits devant les gouverneurs et devant les rois pour leur apporter votre témoignage. On n'a même pas à craindre d'aller en cours, parce que peut-être en cours, Dieu veut qu'on donne notre témoignage, qu'on soit une lumière, qu'on donne la soif ou le goût. Être une aide, une vis-à-vis pour Jésus consiste à avoir les mêmes motifs que lui et désirer manger la même nourriture que lui pour avoir la capacité de faire ses œuvres. Jésus a dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Si on fait la volonté du Père, il dit, « Demandez n'importe quoi, il va vous le donner. » Quand Jésus a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père », c'est que les apôtres, les disciples, ils s'inquiétaient, ils se posaient des questions, ils disaient, « Voyons, il n'y avait pas de nourriture quand on est parti en chercher. Qu'est-ce qu'il a mangé? » Fait qu'il a répondu ça. Mais Jésus venait de libérer la femme samaritaine adultère en lui disant qu'il était le Messie. C'est la première personne à qui Jésus a annoncé qu'il était le Messie. Une samaritaine rejetée du peuple juif, une adultère. Go figure. Oh oui. Hébreux 2. Come on. Le 14. Puis je pense que quelqu'un a parlé de ça ce matin. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer quelques-uns. Tous ceux que la peur de la mort retenait. Tous ceux que, par la peur de la mort, retenaient leur vie durant dans l'esclavage. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Vous n'êtes plus esclave de la peur. Vous êtes enfant de Dieu. Sommes-nous des vis-à-vis, des aides pour notre époux céleste? Sommes-nous préparés? Si oui, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, parce que le banquet est prêt. Sinon, faisons-le rapidement, parce qu'il revient bientôt. Amen. Seigneur, merci Éternel pour ta grâce. Merci pour Jésus. Merci Jésus pour le prix que tu as payé pour nous. Oh oui, j'ai oublié quelque chose. La dot. L'époux doit pourvoir une dot. Puis tout le monde pense que la dot, c'est pour payer au père ce que l'époux pense que son épouse vaut. C'est pas du tout ça. La dot, c'est le montant que l'époux considère suffisant pour prendre soin de l'épouse le temps qui est parti et après, si jamais il lui arrivait un malheur. Jésus, par son sang à la croix, a payé le prix. Et en laissant le Saint-Esprit en garantie de notre héritage, il nous dit, « Je ne vous ai pas oublié, je reviens bientôt. » Amen.